Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
On apprenait ce matin dans le Journal de Montréal que des armes à feu automatiques ont été saisies à Kahnawake en janvier. J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Jean-Louis?
Bonjour, Geneviève.
Écoute, toute cette histoire d'AK-47 et d'armes d'assaut, j'ai dit en début d'émission un pas très beau mot, brasser de la merde pas mal, oui. Là, depuis quelques semaines. Là, commençons par nous situer. Là, raconte-nous comment les Peacekeepers ont fait cette découverte-là. Je pense que ça fait comme 2 mois.
Même pas. 7 janvier.
Okay.
C'est tout récent. Tu sais, quand François Legault disait plus tôt cette semaine, on a des informations qu'il y a des AK-47, des armes d'assaut sur la réserve, puis ça a mis un peu le feu aux poudres.
Mais les gens ont trouvé ça maladroit.
Ben, les gens, il y en a qui ont dit si c'est une vraie information, c'est de l'info stratégique, pourquoi t'en c'est parles ça. Comme ça? D'autres qui disaient, ils exagèrent, c'est pas vrai qu'il y a des AK-47. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce que les Peacekeepers ont trouvé en janvier, ça lui donne raison. Peut-être pas des AK-47, mais certainement des armes de guerre. 7 janvier, les Peacekeepers parlent d'un communiqué, sont en anglais, là, traffic stop, donc on peut penser un arrêt de un contrôle de routine, là, vous voulez vérifier l'identification du véhicule, permis de conduire, etc.
Il n'y avait aucun soupçon sur ce véhicule, c'est un hasard. Là.
Un hasard selon ce qu'ils nous disent.
Un hasard.
Et rouvre les portes du véhicule, se rend compte qu'il y a plusieurs armes à l'intérieur.
Oups.
2 hommes qui viennent de l'extérieur de la réserve. Donc on peut penser peut-être qu'ils venaient faire une livraison.
Oui, parce qu'il y aurait d'armes. Du trafic d'armes à Kahnawake. Ben, je veux pas mal parler, mais c'est quand même quelque chose qui s'assume.
Bon, oui, c'est un secret de polichinelle.
C'est ça.
Au fil des années, il y a beaucoup d'armes illégales qui ont été saisies sur la réserve. Donc, 2 hommes qui viennent de l'extérieur. Les policiers poursuivent leur enquête. Ça les mène à une résidence sur la réserve. Et là, on trouve... Et là, c'est pas n'importe quoi. Là. Quand on parle d'une MP40, hein, c'est une mitrailleuse légère, la fameuse MP40 que les forces allemandes utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est redoutable.
C'est inquiétant. Ça peut faire beaucoup de dégâts.
C'est pas une arme de chasse, non. Tu vas pas à l'orignal avec ça, Geneviève. Là.
Non, je te
c'est,
au courant.
C'est, oui, c'est... Alors, deuxième chose, une .50, là, qui est une mitrailleuse très lourde qui peut véritablement faire un carnage sur un champ de bataille. Et ben, finalement, une Tech 9, là, qui est une arme, je te dirais, plus de gang de rue, là, semi-automatique, relativement légère. Donc, ce sont certainement... Donc, évidemment, c'est illégal de posséder ces armes-là et de les revendre dans le contexte où...
Mais est-ce qu'on sait justement qui se rend là pour acheter ça? Tu parles peut-être de gangs de rue ou...
Ah ben oui, c'est clairement destiné au marché noir, là.
Ouais.
Et on ne connaît pas vraiment la provenance de ces armes-là.
C'est quand même inquiétant.
Effectivement. Donc, que ça a été saisi seulement un mois et demi avant que François Legault fasse sa déclaration, est-ce que c'est l'information que M. Legault avait ou est-ce qu'il y a eu des informations, des renseignements à l'effet qu'il s'en trouvait ailleurs sur la réserve?
Mmh.
On ne peut que spéculer, mais ça montre encore une fois que on joue un peu sur des mots cette semaine. Là. Quand M. Deer, qui était le représentant des Mohawks, disait il n'y a pas d'armes aux barricades.
Oui, mais là, pas aux barricades, mais dans le sous-sol, par exemple.
Effectivement.
La
photo qu'on a publiée là, sur le site web du Journal de Montréal ou dans l'édition papier est assez évocatrice. Là. Donc, non seulement il y avait ces 3 armes destructrices, il y avait 7 armes de poing également, il y avait des liasses d'argent, il y avait des munitions. Donc, un beau kit de crimes organisés là, ou de gangs de rue.
Mais un beau kit aussi pour que peut-être qu'on n'ait pas envie d'intervenir de façon armée pour pas que ça dégénère.
Effectivement, on peut comprendre la stratégie policière. D'ailleurs, Yann Lafrenière, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, expliquait ça hier justement. C'est que c'est parce que stratégiquement, il y a des gens sur la réserve qui sont armés de cette façon-là. On ne veut pas risquer, par exemple, qu'un policier de la Sûreté du Québec soit blessé. Ou pire. Là,
non, puis il y a quand même certains autochtones, et là, vraiment, je souligne là, au crayon gras, certains, pas tous, autochtones qui ne reconnaissent pas le pouvoir d'Ottawa, qui ne reconnaissent pas le pouvoir de la police. Donc, Dieu sait ce qui pourrait arriver là, si on rentrait là avec des guns. Là. Ça serait vraiment jeter l'huile sur le feu.
Il y a effectivement un risque supplémentaire qui est calculé à ce moment-ci par le gouvernement du Québec et par la Sûreté du Québec.
Mais là, comment on va s'y prendre? Parce qu'on est comme dans une impasse.
Ben, la stratégie a changé depuis 2 semaines. Sur une réserve, c'est toujours beaucoup plus délicat. Mm. On se rappelle de la crise d'Oka. Moi, j'ai bien hâte de voir. Là, il y a des est-ce qu'il y a des négociations en Colombie-Britannique qui ont débuté là, hier de façon, on dira pas rapide. Hein? Il y a eu du serrage de main puis des chances autochtones. On va voir si en fin de semaine ça va progresser. Mais présentement, Geneviève, il faut le dire, la barricade, je sais même pas si on peut l'appeler barricade, ne pose pas de problème à la circulation.
Non, c'est
pas.
Juste un statement, ils sont là.
Effectivement. Et je pense que la Sûreté du Québec est pas pressée de d'intervenir ou de faire dégager les gens de là, là. À la limite, on peut très bien tolérer ça pendant plusieurs jours. On serait
surpris.
C'est
vraiment une manifestation.
Oui, effectivement, effectivement.
Mais bon, quand même, le fait de voir ça, tu sais, le fait aussi, je sais pas, tu sais, je me demande le degré d'ampleur du trafic d'armes au Canada par les communautés autochtones, tu sais, je me dis bon, il y en a là, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y en a ailleurs, qu'il y en a dans d'autres communautés autochtones?
Oui, mais on a eu des rapports de renseignement dans les dernières années, notamment dans des résidences de Laval où des armes qui entraient par exemple la réserve d'Akwesasne avaient été saisies, des armes qui se trouvaient dans des sous-sols de luxueuses résidences dans l'ouest de Laval, quartier Sainte-Dorothée, entre autres. Je me rappelle qu'on avait eu des rapports de la GRC là-dessus. Donc, le trafic d'armes, c'est un trafic qui est encore lucratif. Hein? Tant qu'il y aura du crime organisé puis des gangs de rue pour en réclamer, c'est sûr qu'il va y avoir un marché pour ça. Et ben, force est de constater que sur la réserve de Kanawake, encore très, très, très récemment, il y en a eu. Et je souligne, les Peacekeepers ont quand même fait un bon travail, non seulement d'intercepter les Peacekeepers, donc la police locale, parce que, par exemple, la Sûreté du Québec n'a pas juridiction sur le territoire, ne peut pas faire d'arrestation. Les Peacekeepers avaient fait un bon travail non seulement de identifier ces armes-là, mais également avaient même publié un communiqué de presse à l'époque qui était passé totalement inaperçu à la mi-janvier, là, parce que là, évidemment, il n'y avait pas encore l'escalade, les tensions sur la réserve.
Et là, ça jette comme une lumière nouvelle sur cette affaire-là.
Effectivement, puis moi, je serais intéressé de voir si dans les prochaines semaines, il va y avoir encore d'autres traffic stops, des contrôles de routine.
Quand je vois ça, Jean-Louis, des articles comme ça, je me dis tout le temps, c'est une bonne chose, c'est sûr, il faut informer le public, là, ça, c'est clair. Mais est-ce que, en quelque sorte, ça peut pas freiner un peu les processus de paix, comme un peu attiser? Parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui disent qu'on s'acharne sur eux au niveau médiatique pour les faire mal paraître.
T'sais. Oui, moi, je pense que dans la mesure où François Legault, le premier ministre, a insisté là-dessus en commençant sa conférence de presse, en disant, il y a des AK-47, il fallait vérifier si le premier ministre avait raison ou pas. Ouais. Et dans ce cas-ci, force est de constater qu'il y avait effectivement là, des armes interdites, des armes de guerre sur la réserve. Je pense que quand le premier ministre en parle comme ça en conférence de presse à Québec, là, ça devient un sujet hautement d'intérêt public. Il ne s'agit pas d'attiser l'attention. On laisse aux gens le soin de faire la part des choses et de se dire aussi qu'évidemment, ce ne sont pas tous les habitants de la réserve qui ont un tempérament belliqueux, loin de là, on tient à le souligner.
Oui, c'est
là.
Important de le dire.
C'est seulement par mesure de précaution. Puis ça permet en même temps de comprendre un peu pourquoi la Sûreté du Québec intervient et pourquoi elle n'intervient pas. On avait vu, par exemple, quand il y avait la barricade, bon, pas en territoire autochtone, évidemment, mais à Saint-Lambert, la semaine passée, comment la police de Longueuil avait quand même pris le temps de bien évaluer la stratégie avant de finalement inciter les manifestants à partir. La stratégie policière, c'est pas aussi facile que ça a l'air. Parfois, on parle beaucoup...
Oui, on est beaucoup gérants d'estrade, mais dans les faits...
Quand on parle à des sources policières, à des gens qui ont à commander les opérations, il y a toujours supposé le risque, et eux nous le disent, il y a toute la notion politique à prendre en compte, mais également sur le terrain, comment ça risque de dégénérer, de se produire. Puis c'est pour ça que dans ce cas-ci, ben, fallait expliquer un peu les éléments qui ont été pris en compte pour retarder l'intervention. Il n'y a toujours pas eu lieu, d'ailleurs.
On va souhaiter que la tension baisse et que ce dossier-là avance de façon rapide, parce que je crois que des deux côtés, les gens sont fatigués.
Effectivement, il serait peut-être temps de passer à autre chose.
Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québécois. On peut lire ce texte-là dans le Journal de Montréal et aller regarder cette fameuse photo qui parle d'elle-même.
Qui vaut 1000 mots,
oui.
Effectivement.
Merci beaucoup.